Actu SF, les podcasts.
Bonjour et bienvenue donc à cette table ronde autour du mythe arthurien, enfin du roi Arthur, entre mythe et fiction. Merci de braver la chaleur et la torpeur de l'après-repas pour suivre ces réflexions qui seront, je n'en doute pas, passionnantes et qui sauront vous tenir en éveil. Alors, on a pour parler du roi Arthur autour de nous, Georges Bertin, tu, si tu veux l'utiliser pour te... Georges Bertin qui est ici, directeur de recherche en sciences sociales au CNAM des Pays de Loire jusqu'en 2016. Georges Bertin est sociologue, socio-anthropologue, spécialisé dans les travaux sur l'imaginaire, dans la lignée de Jung ou de Gilbert Durand, donc des mythes, du symbolisme, notamment arthurien, même s'il a aussi travaillé par exemple sur les pèlerins de Compostelle ou sur le symbolisme franc-maçon. Et il nous fait d'ailleurs le plaisir de venir à l'invitation des imaginales maçonniques et ésotériques. Et donc il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le symbolisme arthurien. Justine Breton est agrégée de lettres et docteur en littérature médiévale et donc elle a fait une thèse sur la représentation du pouvoir dans la geste arthurienne et ses réécritures contemporaines. Notamment au cinéma, à la télévision. Parmi ses centres d'intérêt, ce qu'elle a développé, il y a l'œuvre de T.H. White, dont elle aura sans doute l'occasion de nous parler. Elle a consacré des articles à Game of Thrones, ou encore donc à la série Kaamelott, auquel elle a consacré un ouvrage, sur lequel elle a co-dirigé un ouvrage avec Florian Besson. Donc Kaamelott, un livre d'histoire, le premier ouvrage universitaire sur cette série, qui est paru il y a quelques mois chez Vendémiaire. Et enfin, Fabien Clavel, enseignant de lettres classiques et romancier d'imaginaire, dans tous les genres et pour tous les publics, puisque ça va des collégiens avec sa série Panique dans la mythologie chez Rajot, aux adultes, par exemple pour son très beau roman steampunk Feuillet de cuivre chez Actu SF. Et Fabien Clavel apprécie particulièrement de retravailler des matériaux préexistants, que ce soit des époques historiques ou bien des grands textes de la tradition littéraire, comme l'Odyssée, sur lequel il a travaillé. Il a écrit La dernière Odyssée, déjà en 2007, chez Mango. Ou, donc pour en venir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, il a consacré L'apprenti de Merlin, donc 4 tomes, à une réécriture arthurienne pour jeunes lecteurs chez Mango entre 2010 et 2013. Hein, donc l'histoire d'Anna, l'apprenti de Merlin. Alors pour cette table ronde, je vais d'abord laisser la parole à Georges Bertin qui va nous permettre de remonter aux origines de la légende et des textes littéraires consacrés à Arthur. Et puis les deux autres invités pourront intervenir à tout moment pour ajouter leur grain de sel sur ces différents éléments donc, qui vont se stratifier, hein, s'ajouter les uns aux autres pour aboutir à ce qu'on connaît du roi Arthur. Georges, c'est à vous.
Je m'aperçois que le monsieur qui devait passer les diapos est parti.
Bon, alors attends, je vais y aller. C'est un peu mon job, hein. Non. Non, tu ne peux pas parce qu'il faut qu'il y ait un micro. Ouais. Donc non, tu ne vas pas pouvoir parce que c'est trop, il faudrait des bras élastiques. Donc, je vais le faire.
Ah ben on a un volontaire qui se présente.
Laurie Guillot, volontaire.
Spécialiste des Arthuriens aussi.
C'est bon?
Merci.
Merci, Laurie. Merci, cher confrère.
Bien, tu peux y aller pour la première. Donc, j'ai essayé de très rapidement d'esquisser, parce que ça ne va pas être une conférence, c'est juste quelques mots pour planter le décor, en quelque sorte. Le roi Arthur, le débat est toujours actuel, d'ailleurs, de savoir si c'est un mythe ou si c'est un héros, hein, qui aurait emprunté à la réalité un certain nombre de traits. Soit une figure légendaire, une figure historique ou une figure littéraire. La figure littéraire, on en est sûr. Votre présence ici, d'ailleurs, le prouve, hein, puisqu'encore aujourd'hui, on écrit, on ne cesse de réécrire, que ce soit d'ailleurs dans la littérature, au cinéma, dans les jeux vidéo, la figure du roi Arthur. La figure historique, on en est un petit peu moins sûr. Il y a quelques bribes qui nous permettent de le penser. La figure légendaire, tu peux y aller, c'est un peu plus sûr. Alors, le folklore, les folklores des pays occidentaux, hein, nous présentent très souvent des hypothèses sur les origines légendaires, sur les racines mythologiques du roi Arthur. La première a été développée dans Alban Gauthier, qui est un professeur de l'université de Picardie, je crois.
Non. Il était à Boulogne,
et qui a fait un très bel ouvrage sur le roi Arthur qui nous montre que le roi Arthur emprunte, ne serait-ce que par son nom d'ailleurs, Arthos, l'ours, des traits communs à cet animal mythologique. Ce qui lui donne d'ailleurs, ayant acquis la force de l'ours, la possibilité des exploits surhumains, qu'on peut d'ailleurs constater lorsqu'on se promène en Écosse et qu'on aperçoit la chair d'Arthur. Et la chair d'Arthur, elle était certainement la chair de quelqu'un qui avait des proportions extraordinaires, hein, quelque part surhumaines. Cette idée de l'ours héros prend racine dans un conte, le conte 301 de la classification internationale Antonsen, et qui le conte de Jean Lelours. Et à chaque fois, il est associé, je le disais, par exemple à des lieux de gigantisme, comme la chair de l'ours en Écosse, ou également à des constellations. La grande ours porte également le nom de Arthos. Donc il y a aussi quelque part l'idée que le roi Arthur est un héros surhumain, mais qui nous indique la direction du nord, qui indique sa direction à l'humanité lorsqu'on regarde le ciel. Et d'une certaine façon, à certaines époques de l'année, la projection de la constellation de la Grande Ourse nous donnerait aussi une marche à suivre sur les traces du roi Arthur. Il y a quelque chose là qui est intéressant. C'est un héros polaire, en quelque sorte.
Est-ce qu'il y a des éléments, à votre connaissance, dans les réécritures qui prolongent cette légende-là de l'Arthur ours ?
Ça fonctionne ? Oui, vous m'entendez. Effectivement, oui, mais même si on reste dans le cadre médiéval, si on retourne, par exemple, sous le roi Henri II Plantagenet, Henri II est un souverain qui... s'est retrouvé un peu pris à son propre piège dans l'utilisation de la légende arthurienne, puisqu'il a d'abord cherché à regrouper des textes et à faire écrire, en l'occurrence, des textes pour montrer qu'il était lui-même un descendant du roi Arthur et qu'en tant que descendant du roi Arthur, il avait cette même légitimité et cette même gloire, si vous voulez. Donc, c'est sûr que quand on est roi, c'est toujours plus prestigieux de se revendiquer, être un descendant du roi Arthur. Le problème, c'est que, vous le savez probablement, hein, l'une des légendes du roi Arthur veut qu'il ne soit pas mort, mais qu'il soit éventuellement blessé mortellement, mais qu'il soit parti à Avalon ou ailleurs, d'où il reviendra un jour pour sauver son peuple, le peuple breton. Le problème, c'est que quand vous développez cette légende-là au XIIe et par la suite au XIIIe siècle, les gens se mettent à attendre le retour du roi Arthur qui viendra les sauver. Donc Henri II se retrouve avec un roi qu'il a voulu mettre en avant, mais que en fait le peuple attend à sa place, à la place du roi actuel. Donc il a trouvé une autre solution, hein, parce que après tout, il y a toujours des techniques. Comme par hasard, à ce moment-là, hein, ça c'est le hasard fait vraiment bien les choses. Il y a des moines qui vont retrouver en fait la tombe du roi Arthur. Donc dans une abbaye, on va retrouver. Sauf que cette tombe est absolument immense. Hein, ça fait un Arthur qui devrait faire un peu plus de 3 mètres, quelque chose comme ça. Donc Arthur, vu l'aura et son association avec l'ours, ne pouvait être qu'un géant de toute façon. Donc on retrouve sa tombe avec, l'inscription nous dit que la tombe comporte aussi les ossements de sa seconde épouse, Guenièvre. Alors pourquoi seconde, je n'en sais rien. Voilà. Mais toujours est-il que Henri II va utiliser cette découverte, avec d'énormes guillemets, qui l'arrange bien pour montrer que ah, le roi Arthur a bel et bien existé, c'est bien mon ancêtre, mais vous voyez, il n'est pas parti à Avalon ou je ne sais où, il est bien mort, ses ossements sont là. On ne peut plus avoir de roi légendaire qui va revenir sauver le peuple. Le véritable sauveur du peuple, c'est moi, aimez-moi. Voilà, c'est un peu cette idée. Donc on retrouve un petit peu des clins d'œil comme ça à cette taille et ce gigantisme aussi en gloire du personnage.
Oui, l'invention de la tombe du roi Arthur se fait en 1191 dans l'abbaye de Glastonbury. D'ailleurs, Henri II n'en profitera pas lui-même parce qu'il est mort. Hein, c'est Richard Cœur de Lion qui sera roi d'Angleterre à l'époque. On peut continuer peut-être ? Alors, on a un certain nombre d'hypothèses hein, sur l'origine du roi Arthur. Hein, Jean Marcal, qui est un écrivain breton, a montré que dans ses écrits que le roi Arthur avait tous les traits du roi du monde, chef suprême, centre du monde. Le monde s'organise quelque part autour du roi Arthur. Et vient renforcer cela le fait qu'il est l'époux de Gwen la Blanche. Hein, les Bretons ne me démentiront pas. Gwen, ça veut dire bien blanc. Elle est belle, bonde, déesse soleil, souveraine, initiatrice. Et le couple Arthur, la déesse blanche, hein, est absolument indissociable, puisque la souveraineté hein, dans les traditions celtes eh bien, provient comment de la reine. On le verra d'ailleurs dans l'histoire de Lancelot, puisque Lancelot recevra l'adoubement de la reine Guenièvre, et non pas du roi Arthur lui-même. Donc c'est un dieu héros, il est fils de l'ours. Alors pour le Squezec, qui est un auteur breton qui est décédé il y a une dizaine d'années maintenant, qui a écrit un énorme livre aussi sur le roi Arthur, et qui lui avait ramené l'origine du roi Arthur sur le continent. Et pour lui, il proposait une autre étymologie qui était que Arthur, le mot Arthur dérivait de la racine ars bretonne qui signifie pierre. Mais en même temps, ça nous ramène aussi à un géant armoricain, on retrouve l'idée de gigantisme, un géant proto-celtique naturalisé et qui aurait appartenu avec sa sœur Anna. Anna, c'est la grande déesse proto-celtique que les Celtes se sont appropriées au monde des pierres levées. Donc là encore, on retrouve l'idée à la fois de roi centre du monde et puis de géant. Mais il faut bien être géant pour être le centre du monde. Le pilier, hein, comme les menhirs, autour duquel s'organise finalement la précession des équinoxes, autour duquel s'organise le lever du soleil, le coucher du soleil. Hein, donc il y a un rapport, là encore cosmologique, très fort à la personnalité d'Arthur.
Et c'est pour ça aussi que très rapidement, on va associer la figure d'Arthur et tous les personnages autour, et notamment la figure de Merlin, à des lieux de pierres levées, notamment au site de Stonehenge, où on a encore une pierre couchée, voilà, qu'on associe traditionnellement à Merlin.
Alors, l'épisode de la danse des pierres.
Voilà, la danse des pierres. Selon Geoffroy de Monmouth, donc qui est un auteur qui écrit plusieurs textes au XIIe siècle, mais celui qui m'intéresse ici, c'est un texte qui s'appelle L'histoire des rois de Bretagne, donc un texte en prose latine qui explique un petit peu la généalogie justement des souverains. Et dans ce texte, Geoffroy va expliquer comment Merlin, par sa magie, va faire venir des pierres géantes pour les placer en rond à Stonehenge et expliquer que c'est lui qui aurait créé ce monument, un sort de monument funéraire en fait en hommage aux guerriers tombés. Donc très rapidement, quand on a un site aussi merveilleux que Stonehenge et qui irradie quelque chose d'assez particulier, on a envie de l'associer à des figures légendaires comme Arthur et Merlin.
Et vous introduisez une notion tout à fait importante, c'est que sans Merlin, il n'y a pas d'Arthur, en quelque sorte.
Alors, oui et non. Alors, c'est vrai que dans les textes, le nom d'Arthur apparaît avant Merlin, notamment dans le texte du pseudo-Nennius, un texte du 9e siècle, mais c'est vraiment infime ce qu'on a comme élément littéraire. Le roi Arthur, tel qu'on l'entend aujourd'hui, naît vraiment effectivement dans l'histoire des rois de Bretagne avec Merlin, qui est celui qui va permettre non seulement de donner naissance à cet enfant grâce à sa magie, et il va lui permettre ensuite de monter sur le trône, de régner, et ensuite il disparaît un petit peu mystérieusement, parce que c'est le cas de Merlin toujours, hein, qui, voilà, il apparaît quand ça l'arrange, il disparaît quand ça l'arrange. C'est ça qui a inspiré aussi le Gandalf, vous savez, de Tolkien, hein, et qui explique tout le temps « A wizard is never late », un magicien n'est jamais en retard, il arrive précisément quand il l'entend. Ben Merlin, c'est exactement ça, il arrive et il repart comme il le veut, et c'est aux êtres humains de se débrouiller après avec, avec ce micmac.
Alors là, pour le coup, Fabien Clavel, vous allez être mis à contribution, puisque c'est bien la version merlinesque, hein, et donc la préparation de la venue d'Arthur qui occupe le premier tome de l'apprenti de Merlin, dont l'héroïne s'appelle Anna.
Oui, c'est pas un hasard.
Voilà.
Je ne l'ai pas choisi par hasard, mais alors effectivement, alors moi, mon approche, évidemment, elle est très différente de ce que vous venez d'entendre, puisque en tant qu'auteur, le but, c'est évidemment de se remplir de toutes ces informations et ensuite de les oublier. Parce que c'est pour ça que je n'interviens pas, puisque j'ai oublié la plupart des références. Parce que quand on se met à écrire dessus, il faut que ça revienne comme des réflexes, mais en même temps, il faut se garder un peu de liberté, sinon on ne fait que réécrire ce qui a déjà été écrit. Et du coup, ce qui est intéressant d'ailleurs dans la réécriture, c'est de réarranger des éléments qui sont déjà existants, de créer des liens qui n'avaient pas été faits. Et notamment, par exemple, voilà, on disait que Arthur et Merlin étaient liés. Et sur la question de l'ours, par exemple, moi je l'ai retravaillé en associant l'ours plutôt à Merlin au lieu de l'associer à Arthur, parce que ça m'arrangeait sur le côté chamanique, en fait, parce que je suis allé voir d'autres influences, hein, dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est de ne pas avoir quelque chose de pur, hein, c'est au contraire d'avoir quelque chose de mélangé. Donc je suis allé voir du côté du chamanisme, et donc effectivement, dans mon cycle, c'est Arthur qui... Arthur a le physique un peu de l'ours, mais sur le rapport avec l'animal, c'est vraiment Merlin. Et d'autre part, je m'étais quand même renseigné, hein, au moment où j'ai écrit mon cycle, et j'avais lu notamment l'édition Pléiade, là où il y a les trois volumes de l'histoire du Graal, ça fait, je sais pas, 6000 pages. Et je m'étais tapé toutes les notes en plus, parce que parfois c'est ce qu'il y a de plus intéressant, pour essayer de garder un peu tout ça en tête. Et notamment, ce qui m'avait frappé, c'est la quasi-absence de Merlin. C'est-à-dire que moi, je l'ai surtout vu dans Robert de Boron. Et puis après, de temps en temps, il fait coucou. Mais vraiment, Merlin est quasiment absent. Et là encore, je me suis posé la question, c'est-à-dire essayer de rester plus ou moins fidèle à mes sources littéraires, parce que moi, c'est vraiment le personnage littéraire qui m'intéresse, tout en cherchant une explication. Et l'explication était relativement simple, c'est-à-dire que la magie provoquée par Merlin est une magie tellement puissante qu'elle demande du repos. En fait, c'est le prix de la magie. Et ça me permettait deux choses. D'une part, d'expliquer ses absences, ou en tout cas cette présence intermittente. Et en plus, moi, ça me permettait de faire des ellipses entre chaque bouquin. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un énorme tour de magie. Alors là, c'est vraiment d'un point de vue narratif, à la fin de chaque volume, où on va faire péter un truc. Ça fait une belle scène finale. Du coup, Merlin va se reposer. Et hop, c'est la fin du tome. Et quand on reprend le tome suivant, il s'est passé 15 ans et que j'ai pas à raconter. Ce qui me permet, en gardant les mêmes personnages, de raconter absolument toute l'histoire. Donc là, vous voyez, c'était vraiment reprendre un élément du mythe, entre guillemets, et l'utiliser d'un point de vue narratif.
Et Anna, c'est un personnage qui enfin, ce prénom-là désigne divers personnages les versions de la légende.
Alors moi, mon problème, en fait, surtout, c'était effectivement de trouver une héroïne qui soit l'apprenti de Merlin. En fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée de travailler sur Arthur. C'était le directeur de collection de l'époque, Xavier Mauméjean, qui m'avait appelé et qui m'avait dit « Est-ce que t'as pas envie de travailler sur Arthur ?» Il m'avait même donné le titre. Hein, il m'a dit « Est-ce que tu veux pas travailler sur l'apprenti de Merlin ?» Sauf que c'était un garçon à l'époque. J'ai dit « Ça a déjà été fait. Hein, on regarde l'adaptation de Disney où c'est un disciple. Donc, c'est pas la peine de refaire la même chose. » Et puis, en plus, en lisant, on s'aperçoit que les élèves de Merlin sont des filles. Donc, je me suis dit « Moi, je veux une fille. » Il m'a dit bien sûr, aucun problème, lance-toi. Et donc j'ai quand même réfléchi un petit peu avant de me lancer. Et donc c'est en utilisant cette jeune fille. Le truc après, c'est on s'adresse à quand même un public qui potentiellement connaît très bien l'histoire. Donc soit on invente n'importe quoi, mais il y a quand même un sentiment de trahison hein, qu'on peut éprouver par exemple pour la mythologie quand on lit, je ne sais plus comment il s'appelle, Percy Jackson par exemple. Il y a des moments où par exemple quand Hadès est rempli de flammes, moi ça me rend presque malade parce que c'est vraiment une vision complètement contemporaine. Donc l'idée c'est de ne pas trahir non plus le lecteur. En même temps il faut essayer de le surprendre en lui racontant d'une manière inattendue ce qu'il connaît déjà. Et du coup il me fallait un personnage un peu anonyme qui est très peu connu dans les légendes parce que le personnage d'Anna et que j'ai découvert en lisant comme ça et qui m'intéressait parce que je pouvais faire des jeux de mots en plus avec d'autres prénoms dans la légende arthurienne. Voilà, et donc je l'ai utilisé comme ça. Et d'ailleurs je ne sais même plus si c'est des sources de seconde main, hein. Je ne l'ai même pas vu dans un texte.
Oui, sur la disparition de Merlin dans les romans du début du XIIIe siècle, dans tout le cycle du Graal, il y a aussi, me semble-t-il, une autre raison, c'est que Merlin, la figure de Merlin est entachée de diabolisation, puisqu'il est l'enfant d'une nonne qui a été fécondée par le diable, par un diable. Bon. Donc c'est quand même que c'est alors il aurait gardé les aspects bénéfiques positifs de sa mère mais il aurait quand même gardé de son père la faculté de se déplacer à distance de faire de la magie etc. Mais ça plaît pas du tout au début du XIIIe siècle parce que les romans qui commencent à être écrits après Chrétien de Troyes est encore très fortement attaché de celtisme mais après Chrétien de Troyes on est vraiment dans des romans chrétiens. Hein, et ben, si on peut faire éliminer tout ce qu'il y a de païen hein, dans la légende arthurienne, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est pour ça qu'on va oblitérer petit à petit le personnage de Merlin ou qu'on va le christianiser complètement. Alors, je me souviens plus si dans Mary Stuart c'est un personnage chrétien ou complètement païen.
Oui, avant son retour effectivement au premier plan. Au moment où le merveilleux de fantasy s'impose dans les imaginaires, donc à la fin des années 90, et où au contraire, là, on va avoir énormément de jeunes Merlin, notamment, qui vont s'inscrire dans la tradition dans la nouvelle tradition des écoles de sorcellerie, etc. C'est par la série télévisée Merlin qui peut faire partie de ces choses qui te font hurler. Moi, j'aime bien, je trouve ça inventif, mais.
On est à Pierrefonds, c'est magnifique!
C'est ouais, ça, qui n'est pas du tout un château médiéval. Hein, c'est pas... Donc ça va bien avec la série. On remet le...
Alors, l'enracinement folklorique de la légende arthurienne, moi je l'ai repéré, là c'est mon petit jardin secret personnel, hein, dans un endroit qui jouxte à la Normandie, le Maine et la Bretagne, dans le bocage normand. Dans les années 60, il y a un érudit local qui s'appelait René Bansard a remarqué un certain nombre de coïncidences entre des toponymes, des paysages légendaires, des situations décrites dans les romans arthuriens de Chrétien de Troyes et puis le grand roman en prose, le grand cycle du Losland en prose, et puis cette région qui est une région de marche, qui s'appelle le passé d'ailleurs, P-A-2-S-A-I-S, du latin passus, le passage. Et à l'époque où il fait ses découvertes, René Bansard était un érudit local qui avait eu son bac en 1917 chez les Jésuites. Ça vaut peut-être une licence de lettres aujourd'hui, sans vouloir injurier l'université. Et il avait une culture médiévale très, très forte. Et il découvre donc des toponymes, il découvre aussi un saint Orterre qui est tueur de dragons. Et dans Arthur et Orterre, il y a la désinence Erté, qu'on honore à Bagnoles de l'Orne. Et on raconte la légende d'Orterre, qui est exactement la légende de Arthur tuant le dragon après la bataille de Turn and Winding. Il y a une fausse Arthur avec sa légende solaire, où on voit le roi Arthur lassé des batailles et de la vie des camps, qui vient se réfugier là, à Saint-Georges de Rouelais, hein, Saint-Georges, héros solaire aussi. Et puis, dans la fractuosité du roc que vous apercevez sur l'image, il se repose de sa vie après être passé en l'île d'Avalon. Et voici qu'en face vient s'établir de l'autre côté du défilé, dans la même vallée. Alors dans certaines versions, c'est une jeune ermite locale. Dans d'autres versions, c'est la reine Guenièvre elle-même. Et le génie des eaux qui coulent entre les deux rochers, hein, leur enjoint de ne pas se retrouver avant le coucher du soleil. Et donc, ils acceptent l'injonction du génie et leur vie posthume, en quelque sorte, se déroule très heureusement. Jusqu'au jour où le roi Arthur, peut-être avait-il mal réglé sa montre ou plus pressé que d'habitude, rejoint sur le lit des amants, c'est comme ça que les gens appellent la pierre encore à l'endroit, eh bien, la reine Guenièvre, s'enfle la Sonce, qui est le nom de la rivière, mugit le ruisseau et tous les deux sont emmenés au fond d'un val sans retour, au fond d'un gouffre sans fin, d'où il reviendra le jour où la fraternité universelle régnera sur la terre. Et vous conviendrez comme moi que ces potes, on n'en est pas encore à la veille. Donc nous avons repéré comme ça 27 sites arthuriens en Basse-Normandie liés à des ermites du 6e siècle, hein, dont la légende a été reprise au 12e, 13e dans le légendaire arthurien. Là, on est déjà passé à l'archéologie. Vous voulez peut-être réagir là-dessus, non ?
Oui, hein, c'est vrai qu'on a énormément de légendes locales comme ça, parce que on parle du roi Arthur, mais en fait, chaque pays et même chaque région a cherché à s'approprier son Arthur. Et alors, forcément, je me sens obligée de faire un détour par T.H. White, qui est un auteur anglais, en fait, hein, qui a écrit 5 livres sur le roi Arthur, qui s'appelle The Once and Future King, qu'on connaît très peu en France, mais en fait, que vous connaissez indirectement, parce qu'au moins, le premier tome a servi d'inspiration au Merlin l'Enchanteur de Disney. Voilà, avec l'enclume, etc., le petit moustique, voilà, tout ça, c'est chez White. Et en fait, dans le cinquième tome de cette œuvre, White termine par un petit... un panorama de toutes les légendes locales qu'il a pu trouver en disant que, voilà, en Écosse, on dit que dans tel tumulus, le roi Arthur serait en train de dormir, dans telle rivière en Irlande. Voilà. Plusieurs régions se sont appropriées cette figure et généralement, effectivement, à partir d'éléments du paysage, une montagne, un tumulus, une rivière ou autre, on dit que Arthur ou Merlin, parfois, parce qu'effectivement, c'est un peu la même idée, ils sont cachés là, ils sont alors soit sous terre, soit sous l'eau, soit dans les airs, dans une prison de verre ou des choses comme ça, qu'ils sont cachés et qu'un jour, ils reviendront. Alors, ils reviendront un jour pour sauver leur peuple, donc il faut croire qu'on n'est pas suffisamment en galère pour l'instant, mais parce qu'apparemment, on ne les a pas réveillés encore, donc...
Brocéliande est l'exemple même de paysage qui se réinvente, mais assez récemment en réalité, hein, autour d'un imaginaire arthurien qui va être attaché à des lieux, hein, à une fontaine, à un rocher, etc. Mais bon, qui est attaché de manière récente et alors c'est beau, mais c'est un peu artificiel, quoi.
C'est ça, parce qu'il faut voir aussi que ça fait jouer le tourisme local. Là, toute la région de Cornouailles, notamment au sud de l'Angleterre, a survit en grande partie grâce au tourisme, et notamment au tourisme arthurien. Brocéliande, tous les parcours qui sont proposés, etc., que ce soit pour aller voir les endroits associés à la fée Viviane ou à Merlin, ou la fontaine de Barenton associée au chevalier Yvain chez Chrétien de Troyes. On se retrouve avec des lieux qui permettent de faire se déplacer les gens et qui donc permettent à la région de vivre un petit peu économiquement aussi.
Oui, donc moi je m'insurge totalement contre l'attribution de la forêt de Brocéliande à la forêt de Pimpon, hein, puisque nous avons établi depuis 50 ans, à la suite de René Bansard, Jean-Charles Payen et quelques autres, des coïncidences et des paralyses beaucoup plus forts entre les pays que les moines, les trouvères, les troubadours qui vivaient à la cour des Plantagenets ont connu en Normandie, lorsqu'ils tenaient cours renforcé à Caen, à Falaise, à Domfront, hein, et dont ils ont pu s'imprégner de toutes ces légendes. Professeur Jean-Charles Payen, qui hélas nous a quittés, ça fait déjà très longtemps, disait que les paysages des marches du Maine et de Petite-Bretagne avaient contaminé l'imaginaire des romanciers arthuriens. Mais on ne va pas entrer dans ce débat-là aujourd'hui. Hein, vous pourrez trouver un guide sur notre stand, hein, qui résume tout cela.
Et donc, puisqu'il y a plusieurs Arthurs et plusieurs attributions locales possibles, vous voyez bien qu'il y a une vraie rivalité d'érudition pour être le vrai lieu, le seul vrai lieu arthurien.
Alors, il y a une thèse d'un auteur qui s'appelle Jean-Louis Calvet, qui a été soutenu à l'université de Nanterre, qui est un breton, et qui s'appelle « L'invention du val sans retour », et qui décrit très bien comment la société celtique de Paris, ayant un de ses membres qui avait une propriété dans la forêt d'aujourd'hui de Pimpon, eh bien, c'est approprié le Val sans retour, le tombeau de Merlin qui n'est qu'un rocher, alors qu'on peut montrer un vrai tombeau mérovingien de notre côté, etc. Enfin, je rentre pas dans la polémique, hein, mais il y a donc quelque part, bien entendu, l'imaginaire arthurien fonctionne sur tous les lieux que vous avez dit. Je suis bien d'accord là-dessus.
Alors, en plus, on retrouve exactement la même chose dans l'Antiquité, hein, où chaque cité a le tombeau d'Héraclès, son arme, une empreinte, etc. D'ailleurs, moi, je me suis éloigné de toutes ces questions qui ne m'intéressent pas spécialement, je dois vous avouer.
C'est super.
Oui, non, je suis peut-être tout seul, hein, mais c'est pas grave. Mais du coup, parce que moi, mon problème, c'était que ça se passe en même temps. Il y a des sites en Angleterre et en Petite-Bretagne, en Grande-Bretagne. Et l'idée, c'était de réunir tout ça. Et là aussi, je me suis posé des questions au niveau narration. Comment je fais? Parce qu'un royaume où il faut traverser la mer à chaque fois qu'on veut voir l'autre bout, c'est problématique. Et du coup, j'avais décidé de réunir les deux. Donc j'ai réuni les deux Bretagnes, ne me remerciez pas. Et je les sépare à la fin quand même. Hein. Et donc voilà, j'en ai fait une espèce de mythe étiologique où la quête arthurienne expliquerait pourquoi la Grande-Bretagne s'est détachée de la Bretagne. Et je voulais revenir sur T.H. White dont tu parlais tout à l'heure, parce que moi c'est un des éléments qui m'a convaincu de travailler dessus. Parce qu'un des éléments de T.H. White, évidemment Disney, ils ont retenu surtout les transformations en oiseaux et tout, mais c'est lui qui fait d'Arthur un pacifiste, ce qu'on retrouve dans Camelot notamment. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé, parce que quand on regarde l'histoire de Camelot, l'histoire des Chevaliers de la Table Ronde, c'est un truc auquel je n'avais pas réfléchi avant. J'étais très fier quand je l'ai trouvé, puis après je me suis aperçu qu'en fait tout le monde y avait pensé. C'est que c'est une utopie, en fait, la légende arthurienne, cette histoire de table ronde et tout. Et alors, une utopie, c'est bien, mais une utopie qui foire, c'est encore mieux. Parce que ça, voilà, excusez-moi de vous spoiler la fin, mais ça se finit mal. Moi, ça m'intéressait, parce que j'aime bien quand ça lose. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Hein. Si tout le monde gagne à la fin, c'est pas très drôle. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était à la fois cette espèce de projet politique utopique et cet échec. Et du coup, comme tu as travaillé sur le pouvoir, ça m'intéresse beaucoup, ce que tu aurais éventuellement à dire dessus.
On va s'en sortir avec nos micros. La technologie, c'est pas mon truc. Alors, je vais faire très court, parce que tu te doutes que du coup, je pourrais... Ça dépend, vous êtes là jusqu'à dimanche, non? C'est bon, on est parti. Bon. Non, effectivement, ce qui est chez White, c'est très intéressant. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il écrit son texte. Le premier tome, il le sort d'abord en 1938. Mais il a commencé à l'écrire donc un peu avant, et il va continuer à l'écrire tout au long de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il va essayer désespérément d'aller participer au conflit, mais en gros il est déjà assez âgé et personne ne veut de lui, ce qui finalement l'arrange bien, parce qu'il peut rester à écrire ses livres avec son chien, voilà. Mais donc il va décider de faire de son œuvre arthurienne son effort de guerre à sa mesure. En essayant de montrer que, alors d'abord, il a un peu comme nous tous, je pense, hein, une certaine fascination pour le roi Arthur, mais vous savez, le roi Arthur des chevaliers, des combats contre les dragons, quelque chose de très, très masculin, j'ai envie de dire, hein, très viril, on a des guerres, voilà. Sauf que, puisqu'il va se retrouver confronté, même indirectement, mais au contexte de la véritable guerre, la Seconde Guerre mondiale, il perd tout de suite ses illusions très romantiques sur la beauté de la guerre et de la chevalerie. Et il va se rendre compte que de l'horreur de la guerre, un peu comme ce qu'on retrouve chez Tolkien, en fait, hein, dans sa vision. Et donc, il va décider de faire de son texte, il le décrit comme ça dans une lettre, il dit que ça va être... il veut que sa légende arthurienne soit un antidote à la guerre. Et il va s'interroger du coup sur toutes les questions de pourquoi l'être humain ressent ce besoin constant d'aller taper sur son voisin, et ce qu'on pourrait faire pour essayer d'éviter ça. Alors Arthur va mettre en place différentes stratégies. D'abord, il va essayer d'utiliser la force armée dans un but plus noble, dans un but de justice, hein, c'est ce qu'il appelle might for right, c'est-à-dire donc la puissance pour le bien, pour le devoir. C'est comme ça qu'il crée la table ronde, en essayant d'unir les chevaliers pour que, au lieu d'aller taper sur tout ce qui bouge, ils aillent défendre la veuve et l'orphelin. Sauf qu'au bout d'un moment, ça lasse les chevaliers, donc il essaye de trouver une autre mission, qui va être cette fois une quête spirituelle, avec la quête du Graal. Peut-être que si les chevaliers ont un but supérieur, ils pourront réussir à apporter ce côté pacifique au monde. Sauf que là encore, la quête du Graal, bon, bah, c'est pas toujours ça hein, non plus. Tout le monde échoue quasiment, sauf Galad. Sauf que Galad, il est tellement en dehors de l'humanité que c'est comme un ange en fait, qui serait sur Terre. Tout le monde le déteste. Voilà. Vous savez, un peu le premier de la classe. On a envie de mettre des claques tout le temps. Ben voilà, c'est Galad.
Chez T.H. White,
bien sûr. Voilà. Et donc, même la quête du Graal n'aboutit pas. Et Arthur va continuer comme ça d'essayer de trouver des solutions. Et notamment, pour trouver ces solutions, il va se tourner vers les animaux grâce à l'intervention de Merlin. Parce que Merlin va lui dire, va lui montrer qu'il peut s'inspirer peut-être des différents régimes, on va dire, d'un régime politique et social des animaux. Je ne sais pas si ça existe véritablement, mais voilà. Donc, Arthur va aller rencontrer les oiseaux qui ont une hiérarchie un peu militaire. Il va rencontrer les fourmis qui ont un régime totalitaire un peu nazi. Hein, on retrouve voilà, encore une fois l'influence du contexte. Mais Arthur, dans sa jeunesse et ensuite à la veille de sa mort, va rencontrer des animaux et va essayer de s'inspirer de leur système, de ce qui marche et de ce qui ne marche pas d'ailleurs, pour pouvoir appliquer ça aux êtres humains et essayer de trouver une solution. Alors, je ne vous spoile pas la fin entièrement, mais effectivement, Arthur pense à des solutions. Il envisage une solution qui résiderait en gros dans la culture et dans l'éducation, mais en montrant quand même avec un certain défaitisme que ce n'est pas en 5 minutes qu'on va changer le monde et qu'il faut des années, des siècles pour qu'une race ou une espèce évolue et que c'est la même situation pour les êtres humains. Il va nous falloir des centaines d'années pour nous éduquer petit à petit et essayer de laisser tomber un petit peu ce contexte de guerre.
Le message porté par le roi Arthur, effectivement, évolue au fil du temps hein, et des sociétés successives qui ont voulu se voir refléter à nouveau.
Là-dessus. Si tu peux passer quelques diapos, j'avais une diapo là-dessus. On va passer les sources bardiques, insulaires et tout ça. Tu caches ça aussi. Voilà, vas-y. Bon, les exploits d'Arthur, on en a parlé, hein, tout ça. Continue les figures d'Arthur. Bon, Chrétienne 3, Arthur chez Chrétien. Et j'ai une petite synthèse où je montre. Voilà, continue, les autres romans en prose. Tu reviens en arrière. L'évolution du personnage d'Arthur. Oui, on voit bien. 6e siècle, c'est un chef de guerre fort et vaillant. 11e, c'est le roi suprême. 12e siècle, roi courtois et fédérateur, centre du monde. Et puis au 13e siècle, la conception féodale, théocratique et spirituelle de la royauté chrétienne s'impose. Alors la quête du Graal est parachevée. Et là, il y a un détail qui est intéressant aussi. Lorsque les trois chevaliers qui triomphent de la quête du Graal, parce que tous, il les a tous laissés sur le côté. Le premier à se lancer, d'ailleurs, Lancelot ne pourra pas aller puisqu'il a pêché avec Guenièvre. C'est son fils Galahad qui ira jusqu'au bout. Mais ils arrivent à Troyes, Perceval, Galahad et Bohor. Et puis, ils arrivent dans la cité de Sarraz. Donc, c'est une cité spirituelle, cité au-delà. Et là, les spécialistes ont bien montré les liens qu'il y avait avec tout l'imaginaire iranien, notamment. La terre du Urkalia et ses cités, hein, et toutes les légendes. Je pense notamment à un travail de Michael Barry, hein, qui a écrit un très bon article qui avait été présenté dans les années 80 à la Société Arthurienne Internationale sur le roi Arthur et les mille et une nuits. Donc nos trois chevaliers arrivent à la cité de Sarraz. Galad deviendra d'ailleurs le roi de Sarraz. Ils vont rencontrer le gardien du Graal, et c'est en contemplant l'intérieur du Graal que Galad sera enlevé au ciel. Donc c'est un ange en quelque sorte, vous avez raison, puisqu'il acquiert une notion spirituelle. Mais les choses vont se gâter pour Arthur, effectivement, puisque c'est à partir de ce moment-là que tout se désunit, en quelque sorte. Et que Lancelot va se révolter contre Arthur, Lancelot et Gauvin vont se battre entre eux, que Mordret, qui est le fils incestueux d'Arthur dans ses versions, eh bien, va combattre contre son père, et que finalement, à la dernière bataille de Camlann, eh bien, ils vont s'entretuer. C'est à ce moment-là qu'Arthur sera emmené en l'île d'Avalon, pour lui donner quand même en quelque sorte la primauté, en lui montrant que lui aussi peut avoir quelque part une évolution spirituelle, alors que tous les autres ont sombré à nouveau dans la barbarie et dans le sang.
Est-ce que, Justine, on peut revenir sur les grandes étapes hein, de cette construction ? Quelles sont les étapes littéraires, les auteurs voilà, qui ont contribué, puisque on, voilà, on, passé les on les a vus passer, et, à cette histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui, et que vient de la rappeler Georges Bertin ?
Effectivement, on a, alors on a des centaines de réécritures. Je pense qu'on est à des milliers d'ailleurs de réécritures, tout média confondu. Mais quand on prend les grands jalons voilà, qui nous ont véritablement inspirés jusqu'à aujourd'hui, on a donc l'histoire des rois de Bretagne, 1135-1138 à peu près, Geoffroy de Monmouth, texte en latin, réécrit en français de l'époque par Vass. Et ensuite, gros succès aussi, fin du XIIe siècle, par Chrétien de Troyes. Vous connaissez peut-être, hein, c'est souvent ceux qu'on étudie au collège, Yvain ou le Chevalier au Lion, ou Lancelot ou le Chevalier de la Charrette, et on a aussi Perceval ou le Comte du Graal, notamment, qui sont les trois best-sellers de Chrétien de Troyes à l'époque. Ensuite, à partir du fin XIIe et XIIIe siècle, on va avoir beaucoup de réécritures, beaucoup plus chrétienne, beaucoup plus religieuse, avec voilà, un message beaucoup plus poignant à ce niveau-là. Et il faut attendre après la seconde moitié du XVe siècle avec Thomas Malory, qui est un auteur anglais, qui, entre deux années passées en prison, parce que c'est pas forcément un mec toujours très sympa non plus, va écrire une sorte d'anthologie de la légende arthurienne qui s'appelle Le Morte d'Arthur, dans laquelle il va essayer de regrouper un petit peu toutes les versions qui existent. Hein. Il joint aussi la légende de Tristan et Iseut, puisqu'on a un lien entre les personnages. Donc il va essayer de regrouper tout ça et de faire une histoire cohérente avec un début, un milieu et une fin pour harmoniser un petit peu tout ce qu'on pouvait avoir. Et c'est surtout le texte de Thomas Malory qui va avoir une influence majeure, alors en France indirectement, mais surtout sur les auteurs et les artistes anglophones, puisque c'est le texte arthurien le plus connu. Il va être repris ensuite et réécrit par des auteurs comme Alfred Tennyson au XIXe siècle ou Mark Twain. Mark Twain, à sa façon, va écrire une histoire très, très décalée du roi Arthur qui s'appelle Un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur, où on a un Américain, tout ce qui est le plus américain, dans le cliché, si vous voulez, qui se retrouve un peu comme par magie propulsé à la cour du roi Arthur et il va décider de tout révolutionner.
On voit Lancelot faire du vélo, d'ailleurs.
Voilà, on a l'invention de la machine à vapeur, etc. Oui. Au VIe siècle, tout va bien. Mais ça finit pas très bien parce qu'il a la mauvaise idée d'inventer la dynamite. Donc, c'est jamais une bonne idée. Et donc, voilà, on a des réécritures comme ça jusqu'au XIXe, XXe. Et au XXe, on va avoir donc T.H. White, que j'ai déjà évoqué, qui va avoir une grosse influence parce qu'il est le premier à donner une enfance au roi Arthur. Voilà, Merlin l'Enchanteur, on voit un Arthur qui a 11, 12 ans. C'est le premier qui va faire ça et qui va vraiment développer un petit peu le personnage à ce niveau-là. Et toutes ces réécritures très récentes, hein, Tennyson, Twain, White, vont permettre aussi un énorme renouveau de la légende grâce au cinéma et par la suite à la télévision. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup plus la légende arthurienne par les films que par les textes. Enfin, je ne sais pas qui parmi vous lit les textes du XIIe siècle. Moi, il faut admettre que je regarde plus de films hein, quand même aussi. Et pourtant, c'est ma spécialité. Mais voilà, donc on a énormément de films à partir de 1923-1927. Et ensuite, on va avoir Richard Thorpe qui va faire Les Chevaliers de la Table Ronde. On va avoir le film Excalibur de John Boorman, hein, 1980, que vous avez peut-être en tête avec ce côté très fantasy, justement. Et ensuite, on retrouve voilà, des réécritures dans tous les sens de Disney qui va faire énormément de films et de téléfilms. Et ça continue aujourd'hui, d'ailleurs.
Le roi Arthur d'Antoine Fuqua, là,
récemment. Voilà, 2004, oui. Avec Clive Owen, Keira Knightley, etc. Une réécriture très
jusqu'à l'année
particulière.
Dernière,
jusqu'à l'année dernière.
Voilà. Jusqu'à l'année dernière, avec le roi Arthur, la légende d'Excalibur de Guy Ritchie. Je vous invite à le voir. Voilà, parce que quand même, ça vaut le coup d'œil. Il faut, si vous partez du principe que ce n'est pas le roi Arthur, c'est un très bon film.
Fabien, lesquels de ces jalons vous ont inspiré ou du moins ont marqué votre imaginaire de lecteur ou de spectateur ?
Moi, c'est clairement Excalibur. Je me souviens encore que j'étais en... Je vais vous raconter ma vie. Vous êtes prêts ? J'étais en colonie de vacances et les moniteurs savaient pas quoi nous faire faire. Non, mais il pleuvait même pas, ils avaient pas d'excuses. Et j'avais, 12 ou 13 ans et ils nous ont collé devant Excalibur. Et ça, j'en ai gardé un souvenir absolument fort. Enfin, je sais pas comment le dire autrement, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Et après, effectivement, j'ai lu T.H. White, mais alors là, c'était dans le cadre de ma documentation pour écrire, et j'ai trouvé effectivement sa version extrêmement intéressante. Moi, je m'étais retrouvé, mais par hasard, en préparant la Greg, que j'ai pas eu, je vous le dis tout de suite, à travailler sur Robert de Boron. C'est le seul truc que j'ai gardé de cette année-là, d'ailleurs, mais c'était sympa. Et puis après, je me suis retrouvé avec un autre truc. J'ai pas vu le tout dernier, là, Arthur. Voilà, il me faisait un petit peu peur. J'ai vu celui de Fuca, qui était rigolo. Je suis moins critique sur les histoires arthuriennes que sur l'Antiquité. Je suis plus détendu là-dessus. Et il y en a un autre qui m'avait bien plu. Et je ne retrouve plus.
Il y a Lancelot le premier chevalier, peut-être, non ?
Il est vraiment pas bon.
Avec Sean Connery dans le... Non, il n'est pas bon, mais Sean Connery dans le rôle de...
Ah bah si, ouais, si, j'oubliais Kaamelott quand même, si. Alors Kaamelott, justement, en me documentant, je me suis aperçu que Kaamelott était super pointu en fait. Mmh. C'est-à-dire que la moindre blague, voilà, et j'avais pas lu encore ce livre-là, que je vais acheter en sortant, mais en gros l'idée c'était effectivement à chaque détail que je retrouvais dans la légende, notamment par exemple, si je me souviens bien, c'est Bort qui est un peu efféminé, il y a plein de blagues sur son orientation sexuelle et tout, et je me suis rendu compte que il a effectivement dans les textes une relation très très forte avec Lancelot. C'est-à-dire que dès que Lancelot approche d'une fille, Bort, il fait non, les filles c'est nul, restons entre hommes et tout. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ça vient de là. Donc il n'a pas fait n'importe quoi. Et ça rend évidemment la série encore plus intéressante parce qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension.
Ah ouais,
donc ça aussi, ça a été un truc très important dans l'image que je me suis faite d'Arthur.
Oui, moi je vous rejoins tout à fait. Il y a d'ailleurs d'excellents ouvrages sur la question. Kaamelott nous présente un roi Arthur un peu désabusé. Mais je trouve que ça rejoint tout à fait comment le roi Arthur du XIIe siècle. Le roi Arthur du XIIe siècle, on a l'impression que les choses lui échappent. Hein, puisque à un moment donné, Méléagant arrive dans la cour où il tient autour de la table ronde où il tient sa cour renforcée, il attrape Guenièvre par les cheveux sans que personne n'en empêche, il en met sur son cheval, fouette cocher, et les voilà partis, et ça va donner les aventures de Lancelot du Lac, bien entendu.
Il a l'air d'être
toujours dépassé, et il donne toujours à ses preux chevaliers, que ce soit Gauvin, que ce soit que ce soit Lancelot, le soin de réparer finalement les défauts de règne qu'il a pu avoir. Et ça, je crois que Kaamelott le restitue très très bien.
C'est ça, c'est que chez Chrétien de Troyes, en fait, Arthur est un personnage secondaire, c'est plus du tout le héros. Héros, ça va être un chevalier différent à chaque fois. Mais donc Arthur, il faut qu'il soit là quand même. On n'écrit pas un roman arthurien sans Arthur, ça n'aurait aucun sens. Donc il est là généralement au début et à la fin de l'aventure pour lancer un peu le truc. Et il est décrit comme pensif, sauf que pensif au XIIe siècle, si on le traduit aujourd'hui, c'est un peu dépressif, si vous voulez. Donc quand on voit le roi Arthur dans la série Kaamelott d'Alexandre Astier, on voit ce Arthur un peu bougon et qui, petit à petit, va finir par lâcher l'affaire et qui va finir par... voir tous ses chevaliers partir, sa femme aussi, et qui va aller jusqu'au plus profond du gouffre. On retrouve en fait beaucoup d'éléments qui viennent de Chrétien de Troyes notamment, et on voit que le créateur de la série a une connaissance assez fine des légendes et de ses réécritures.
C'est vraiment des branques, hein, aussi bien Lancelot que Perceval.
C'est vrai que Lancelot tient un peu debout quand même dans le truc, mais il
a un rôle un peu négatif en plus, alors qu'il est positif chez Chrétien. Ouais.
C'est ça, mais en fait chez White, il a déjà cette ambiguïté. Ah, et là, le Lancelot de Kaamelott est en fait clairement inspiré par Star Wars, parce que ça étonne tout le monde quand je dis ça. C'est un Sith, ouais. C'est-à-dire qu'il est dans l'absolu. C'est soit le chevalier extrêmement pur, le chevalier blanc, on l'appelle beau trouvé, etc. Soit à partir du moment où il bascule, c'est fini. Il va être... manipulé par le personnage de Méléagant. Regardez le look de Méléagant avec sa capuche noire. Si lui, c'est pas un seigneur Sith, je ne sais pas d'où il sort. mais justement, il va être complètement manipulé. Et comme Lancelot est un personnage de l'absolu, il est soit tout blanc, soit tout noir. Je ne sais pas ce que ça donnera dans la suite de l'histoire, dans les films Kaamelott, mais pour l'instant, il prend quand même une pente assez dangereuse, le garçon.
Très bien. Alors, on n'a pas parlé des Monty Python non plus, des Sacrés Graal.
Ouais, mais on va manquer de temps pour évoquer effectivement les innombrables exemples de ces réécritures arthuriennes. Le roi Arthur donc, voilà, se caractérise par son, sa plasticité étonnante, hein, de la légende de l'ours à l'apprenti de Merlin, en passant par T.H. White et Kaamelott. À chaque fois, dans chacune de ces réécritures, il y a beaucoup d'éléments qui sont repris à la très longue tradition des réécritures arthuriennes, puisqu'elle commence au 9e siècle pour s'arrêter, enfin ne pas s'arrêter aujourd'hui. Donc cette tradition, elle est tellement riche qu'effectivement chacun peut y puiser et réussir à nouveau renouveler le mythe, comme voilà, Fabien Clavel, entre autres, l'a fait dans sa tétralogie. Ouais. Merci beaucoup à nos intervenants.
Merci
à
Anne.
Vous de votre présence. Et à bientôt pour acheter des livres sous la bulle du livre.